Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 17. Tristan. Il y eut un moment de silence après ces dernières paroles. Puis le baron Tristan demanda au capitaine : Que savez-vous de mon histoire ? Je sais les bruits qui ont couru dans la province au moment de l'incendie du château de Champdivers. Et rien de plus ? Comme beaucoup de gens, j'ai cru longtemps que le feu du ciel était tombé sur le manoir seigneurial et que vous aviez péri dans l'incendie avec votre fils unique. Depuis cette époque, de sérieuses raisons sont venues modifier ma croyance. Là où je ne voyais qu'un accident, j'ai vu un double crime, un assassinat et un incendie. Et c'est Antipe de Montaigu que j'en ai accusé en mon âme et conscience. Puis-je connaître les motifs qui ont influé à ce point sur vos convictions ? Vous les connaîtrez bientôt, messire, mais en ce moment je vous supplie de ne pas m'interroger. Cependant, vous ajoutiez foi à ma mort, aussi fermement que si j'avais eu votre cadavre sous les yeux. Pourquoi cela ? Un vieux serviteur avait cru voir votre corps tout sanglant dans le lit embrasé. Mais alors, capitaine, comment donc tout à l'heure vous a-t-il été possible de deviner qui j'étais ? Un vieillard m'aurait reconnu, peut-être, mais quand j'ai disparu, vous n'étiez qu'un enfant. Il y a là un mystère inexplicable, dans lequel ma pensée s'égare. En face de ces questions réitérées, l'accusant éprouvait un grand embarras. Plus de 2 siècles avant l'apparition de cet admirable chef-d'œuvre de Madame de Girardin, la joie fait peur, il savait que la joie, prodiguée trop brusquement et à trop haute dose, peut foudroyer aussi bien et peut-être mieux que la plus âcre douleur. Il ne voulait point révéler si vite au baron de Champdivers que Raoul était vivant et que c'était à sa ressemblance avec le fils qu'il avait reconnu le père. Il se contenta donc de répondre « Je vous en conjure de nouveau, messire, armez-vous de patience. Je ne tarderai guère à vous apprendre tout ce qu'il vous importe de savoir. » Et vous verrez alors qu'il m'était impossible de parler plus tôt. » Tristan s'inclina. « Ce que vous ferez sera bien fait, » dit-il. « J'attendrai donc que le moment soit venu. » Puis il reprit. Le vieux serviteur, Marcel Clément sans doute, qui m'a vu tout sanglant et sans connaissance dans le château incendié, ne s'était point trompé. Surpris dans mon sommeil par le feu et par les assassins, je n'eus pas même le temps de me mettre en défense. 10 hommes armés, parmi lesquels se trouvait l'homme au masque noir, le seigneur de l'aigle, se ruèrent sur moi et me percèrent de coups d'épée. Je m'évanouis et je crus mourir. Quand je revins à moi, j'étais dans un cachot, dans ce même cachot d'où vous m'avez arraché il y a 2 heures. J'avais perdu beaucoup de sang. Ma faiblesse était telle et mon corps si complètement brisé que je n'eus pas tout d'abord la conscience de ma situation. C'est d'une façon vague, incomplète, presque indistincte, que je me rappelle la première période de ma captivité. Les souvenirs de cette époque m'apparaissent, pour ainsi dire, à travers un voile qui les obscurcit et les amoindrit. Ils ressemblent à ces rêves qu'on oublie au réveil et qui ne laissent dans l'esprit, en s'effaçant, qu'une trace vague et confuse. Étendu sur la paille au fond de mon cachot, de même qu'il n'y avait presque plus de sang dans mes veines, il n'y avait plus d'énergie dans mon cœur, même pour la souffrance. Mon corps était mourant, ma pensée était morte. Bien des heures, bien des jours, bien des mois s'écoulèrent sans me ramener la force physique et la force morale. Je sentais que je venais d'être foudroyé par quelque catastrophe gigantesque. Je sentais que ma vie était perdue et qu'aucun autre malheur ne se pouvait comparer au malheur inouï qui m'accablait. Mais l'énergie me manquait pour la révolte. Je m'engourdissais peu à peu, comme ces voyageurs perdus dans les neiges, qui sentent le sommeil venir, et avec lui la mort, et qui cependant n'essaient même point de lutter contre le sommeil et contre la mort. C'est tout au plus si, par instant, j'éprouvais une aspiration instinctive vers la liberté. Alors je cherchais machinalement quelque moyen insensé d'évasion. Alors je tournais dans mon cachot comme un loup prisonnier tourne dans sa cage. Je m'élançais pour atteindre au soupirail par lequel on me jetait ma nourriture. Puis, découragé par ces efforts infructueux, je retombais dans ma torpeur et dans mon inertie. À cette somnolence étrange, à ce long sommeil de mon âme, succéda une crise de désespoir et de délire. J'exhalais ma rage en crise, en imprécation, en blasphème. Je meurtris mes bras et je brisais mes ongles contre les murailles du rocher. Cette période de fureur passa comme avait passé la période d'engourdissement. Un découragement morne et froid leur succéda. Je voulus mourir. Pendant bien des jours, je n'approchais de mes lèvres ni un morceau de pain, ni une goutte d'eau. Je touchais à l'agonie. Les tortures de la faim me firent oublier ma résolution. Je mangeais. En même temps que mes forces, me revinrent à la fois le découragement et le délire. Je résolus de nouveau d'en finir avec la vie. Mais je voulus en finir sur le champ et sans m'infliger encore une fois le supplice d'une agonie longue et intolérable. Je pris mon élan. À 10 reprises, je m'élançai de toute ma vigueur contre le rocher, le heurtant impétueusement avec ma tête, dans l'espérance qu'un de ces chocs serait mortel. À 10 reprises, je me relevai, couvert de sang, pour recommencer encore, jusqu'à ce qu'enfin je sentis une suprême défaillance s'emparer de moi. Je ne me relevai pas. Je crus que la mort venait. Du fond de mon âme, je remerciai Dieu, qui daignait enfin me prendre en pitié, et je perdis l'usage de mes sens. Tristan de Champdivert, comme accablé sous le fardeau des souvenirs lugubres qui passaient dans sa mémoire, baissa la tête sur sa poitrine et garda le silence pendant un instant. En écoutant le terrible récit de ses souffrances sans nom, fait par celui-même qui les avait subies, l'accusant se sentait pâlir, et de seconde en seconde, il essuyait la sueur glacée qui mouillait ses tempes. Le vieillard reprit. « Il était écrit là-haut que je vivrais, et grâce à vous, capitaine, je dois aujourd'hui remercier Dieu de n'avoir pas exaucé dans ce temps-là ma prière ardente. » Au moment où je m'évanouis, ma tête portait contre la muraille. Au moment où je repris l'usage de mes sens, il me sembla que plusieurs personnes parlaient dans mon cachot et tout près de moi. Pour un prisonnier, un événement inaccoutumé, quel qu'il soit, apporte une espérance avec lui. Je me soulevai vivement afin de voir quels étaient ces visiteurs inattendus. Il n'y avait là personne et je n'entendis plus rien. Je crus à une hallucination et je laissai retomber ma tête en arrière. À peine avait-elle touché de nouveau la muraille que le bruit des voix recommença. J'éloignai ma tête. Le silence se fit. Je la rapprochai. Les voix parlèrent de nouveau. C'est ainsi que je découvris cette étrange propriété de la transmission des sons, dont la voûte et la muraille du cachot étaient douées au plus haut degré. Cette découverte fut pour moi d'un immense intérêt et me rattacha en quelque sorte à la vie. Désormais, je n'étais plus absolument seul. Je n'étais plus, au moins, condamné à n'entendre d'autres bruits que celui du guichet s'entr'ouvrant à demi, pour laisser tomber auprès de moi une nourriture grossière et insuffisante. Un lointain écho du monde arrivait jusqu'à mon oreille et fournissait un aliment à la dévorante activité de mon esprit. À partir de ce moment, je ne quittais plus guère l'endroit de ma prison, d'où je pouvais écouter tout ce qui se disait au-dessus de moi. Et Dieu sait combien de secrets sinistres me furent ainsi révélés. Mais j'en arrive à cette nuit horrible, dont le souvenir, à l'heure où je vous parle, arrête encore les battements de mon cœur. Je m'étais endormie, la tête appuyée contre le rocher. Je fus tirée de mon sommeil par des cris déchirants, qui se mêlaient aux cliquetis des vers se heurtant dans une orgie. La voix avinée du seigneur de l'aigle murmurait les paroles, ou plutôt les imprécations d'un infâme amour, et une autre voix, qui fit tressaillir ma chair et qui remua mon âme jusque dans ses profondeurs, répondait par des plaintes, par des prières, par des malédictions. C'est que cette voix, qu'il me semblait reconnaître, était celle de la femme que j'avais tant aimée, celle de Blanche, de ma douce et chaste fiancée, disparue dans des circonstances que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Il me sembla que j'étais sous le coup d'un hideux cauchemar. J'aurais voulu me lever et courir à l'aide de la malheureuse créature qu'Antide de Montaigu violentait. J'aurais voulu répondre à son appel désespéré et joindre mes imprécations à ses cris. Mais un anéantissement, pareil à la mort, me clouait au sol sur lequel j'étais étendu. Ma voix expirait dans ma gorge. Mes lèvres, tout en s'agitant, restaient muettes. Cependant, le bruit continuait, et j'assistais par la pensée à toutes les péripéties de l'effroyable lutte, dont l'issue ne pouvait être douteuse. Les cyniques emportements du misérable ivre de vin et de luxure atteignaient leur paroxysme. Les gémissements et les supplications de la victime s'affaiblissaient. Sa force était à bout. Enfin, Antide de Montaigu poussa un hurlement de triomphe auquel répondit vaguement le râle du désespoir, pareil à celui de l'agonie. Le plus lâche, le plus monstrueux des crimes venait de s'accomplir. Après un long silence, j'entendis frapper sur un timbre. Puis le seigneur de l'aigle s'écria « Emportez cette femme !» Le calme se rétablit ensuite, et je me demandais si je ne venais pas de rêver. Et cette question que je m'adressais alors, je me l'adresse encore aujourd'hui, car depuis cette époque, jamais un mot ne fut prononcé qui eût trait à la scène inouïe dont il m'avait semblé être le témoin. Cependant, le désir ardent, impérieux, irrésistible de dégager la vérité des nuages, parmi lesquels elle s'enveloppait pour moi, m'avait rendu des forces en me donnant une fiévreuse soif de liberté. 20 fois par jour, j'entendais, derrière celle des murailles de mon cachot qui touche à la citerne, des bruits dont je ne pouvais me rendre compte et qui étaient produits par les valets et les palefreniers venant puiser de l'eau. Je me figurais que s'il m'était possible de creuser le rocher en cet endroit, je parviendrais à m'échapper. Je me fis une sorte d'outil avec un carcan rouillé que j'avais trouvé sur le sol et je me mis à l'œuvre. Ce fut un travail gigantesque. J'employais non pas des jours et des mois, mais des années à percer une étroite issue dans ces blocs de granit contre lesquels s'usait le fer. Enfin, j'atteignis le résultat si longtemps rêvé, si énergiquement poursuivi. J'avais vaincu le granit. Jugez de ce qui se passa en moi, jugez du désespoir qui s'empara de mon âme, quand je vis que l'unique résultat de tous mes efforts et de tous mes travaux avait été de me donner 2 cachots au lieu d'un seul. Comment ai-je survécu à cette atroce déception? En vérité, je ne le comprends pas. Je puis supposer seulement que Dieu, sachant que la délivrance me viendrait par vous, ne voulait pas me laisser mourir. Voilà l'histoire de ma captivité, capitaine. Et maintenant, vous comprenez sans doute quelle place doivent tenir dans mon âme ces 2 sentiments. Pour vous, une reconnaissance sans borne. Pour Antide de Montaigu, une haine immortelle. Tristan de Chandiver se tut. Nacuzon s'absorba dans une profonde et sombre rêverie, et pendant quelques minutes, il garda le silence. « Messire, demanda-t-il enfin, vous est-il possible, dans votre cachot, de vous rendre un compte exact du temps écoulé ?»« Oui, répondit le vieux seigneur, c'était une sorte d'occupation pour moi que de supputer les années, les mois et les jours, et même j'avais trouvé un moyen d'éviter toute erreur. Que faisiez-vous pour cela? Chaque semaine, j'ajoutais une entaille aux entailles faites précédemment par moi dans le rocher. Alors, il vous serait possible de préciser l'époque à laquelle s'est passée cette scène étrange, rêve ou réalité, d'une femme violentée par le seigneur de l'aigle? Cela me serait possible. Faites-le donc, je vous en prie. Tristan de Chandiver, après un instant de réflexion, répondit « Cette scène a dû se passer dans le courant du mois de mai 1619. »« Ah !» murmura l'accusant tout bas. « Et Églantine est née au château de l'Aigle, au mois de février 1620. Il est impossible d'en douter. Églantine est fille de Blanche de Mirbel et de l'infâme Antide de Montaigu. » Le vieux gentilhomme allait demander au capitaine quels étaient les motifs de la question qu'il venait de lui adresser. Il n'en eut pas le temps. Deuxième partie, chapitre 18. Reconnaissance. Maggie, qui précédait toujours nos 2 personnages, arrivait en ce moment au fond d'une ravine étroite. Là, elle s'arrêta en face d'une roche haute et lisse, dont la base disparaissait au milieu d'un véritable fourré de genêts et d'arbustes épineux, et toujours vert. Messire, dit l'accusant à Tristan, nous approchons du terme de notre voyage, et pour obéir au serment qui me lie, je vais être obligé de vous bander les yeux. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le colonel Varose et le curé Marquis, aussitôt qu'ils vous connaîtront, m'accorderont le droit de n'avoir plus de secret pour vous. Ce que vous ferez sera bien fait, capitaine. répondit de nouveau Tristan en présentant sa tête pâle au bandeau que venait de préparer l'accusant. Maggie écarta les broussailles qui enveloppaient d'un réseau presque inextricable le pied du rocher, et elle démasqua une ouverture étroite et basse, dans laquelle il n'était possible de se glisser qu'en rampant sur les mains et sur les genoux. La vieille femme s'engagea la première dans cette ouverture. Le capitaine fit passer Tristan de champ d'hiver, et après avoir rapproché et remis en bon ordre les rameaux des buissons momentanément écartés, il suivit le gentilhomme. Au bout d'une vingtaine de pas, il devint facile de se relever et de marcher sans courber la tête. La voûte du souterrain s'élargissait et le couloir se faisait galerie. « Messire ? » demanda le capitaine à Tristan. « Sauriez-vous, seul et sans indication, retrouver l'entrée par laquelle nous venons de nous introduire ?»«
Non, certes, » répondit le vieux gentilhomme.
« Vous me l'affirmez ?
Je vous en donne ma parole d'honneur. »
« Dans ce cas, rien n'empêche que vous ôtiez votre bandeau. Je suis en règle vis-à-vis de mon serment, puisque vous ignorez le secret de la caverne. » Tristan se hâta d'arracher le mouchoir qu'il rendit au jeune chef en lui disant « Franchement, capitaine, j'aime mieux cela. Je ne saurais vous exprimer combien l'obscurité me pèse, après tant d'années d'obscurité. » La voûte, nous le répétons, s'élargissait devant les voyageurs nocturnes. Une atmosphère humide et froide alourdissait leurs poitrines et venait les frapper au visage. Le faible bruit de leurs pas retentissait avec une sonorité étrange et se perdait au loin après avoir réveillé les échos endormis parmi les anfractuosités du roc. La galerie dans laquelle ils marchaient suivait une pente assez rapide et sa voûte allait s'élevant et s'élargissant toujours jusqu'au moment où la galerie se métamorphosait tout à coup en une salle immense. La voûte se perdait à une si grande hauteur que la lumière de la torche ne pouvait l'atteindre. Le silence qui régnait dans cette salle n'était pas le silence réparateur de la nuit, le doux et calme silence de la nature qui sommeille, coupé et interrompu par les vagues murmures de la vie qui va bientôt renaître. Non, c'était un calme sinistre, un silence glacial, absolu, celui de la mort et de la tombe. C'est à peine si l'on entendait par instant le cri lugubre de la chauve-souris, quittant la pointe du rocher à laquelle elle était suspendue par les pattes et décrivant dans l'atmosphère lourde les bizarres sinuosités de son vol capricieux. D'innombrables stalactites formaient sur les parois de la caverne comme un étrange défilé de fantômes menaçants et d'animaux impossibles, pareils à ceux que le Moyen-Âge sculptait pour en faire les gargouilles de ses cathédrales et de ses monastères. À l'extrémité de la salle, une rivière souterraine roulait lentement et silencieusement sur un lit de sable, ses flots qui, dans la demi-obscurité, semblaient noirs comme de l'encre et épais comme de l'huile. Nos trois personnages traversèrent cette rivière en sautant de rocher en rocher, et ils pénétrèrent dans une seconde galerie qui s'abaissait et se resserrait devant eux et qui finit par s'interrompre tout à coup. Un bloc de granit, semblant s'être détaché de la voûte, barrait le chemin. « Nous sommes arrivés, messire, » dit le capitaine à Tristan.
« Arrivés ? » répéta ce dernier. « J'aurais cru plutôt que nous étions fourvoyés dans un souterrain sans issue. »«
Vous allez voir. » L'accusant prit la torche des mains de Maggie et montra au gentilhomme que quelques entailles, suffisantes pour y placer les pieds et les mains, étaient pratiquées dans le bloc de granit, dont elle faisait une sorte d'échelle. Et après avoir éteint la torche désormais inutile, il monta le premier. Du haut du rocher, qui touchait presque à la voûte, le regard plongeait dans l'intérieur du trou des gangones, et dans l'éloignement, on entrevoyait la lueur faible et vacillante des feux de bivac allumés par les montagnards. Le capitaine descendit, suivi par Tristan et par la vieille femme. Il approcha de sa bouche deux de ses doigts, et il fit retentir ce formidable coup de sifflet qui servait de signal aux soldats des corps francs, et dont les grises et les suédois avait entendu si souvent sur les champs de bataille les menaçantes vibrations. À l'instant même, tout fut bruit et mouvement dans la caverne. Les montagnards se précipitèrent avec des clameurs de joie vers l'endroit où ils savaient qu'ils allaient revoir leur jeune chef bien-aimé, et Garbas, arrivant le premier de tous et entraîné par un irrésistible transport, se jeta au cou de l'accusant en s'écriant
« Ah, capitaine, c'est donc vous! Vous voilà revenu! Tout est sauvé! » Nous commencions à nous démoraliser, savez-vous, et il nous semblait que le malheur était sur nous. Le curé marquis prisonnier et vous absent, nous n'étions plus des hommes. Mais puisque vous revoici, tout va bien et le curé sera bientôt libre. Vive le capitaine, vive l'accusant ! Hurlèrent avec un formidable ensemble tous les montagnards, en proie à un véritable délire et s'efforçant d'embrasser les mains et les vêtements du jeune homme. Merci, mes amis, merci, mes braves et dignes compagnons. Merci, mes fidèles soldats, répliqua le capitaine, profondément touché de cet accueil enthousiaste dans lequel se lisait si bien l'ardent attachement qu'il inspirait. Puis, après avoir rendu à Garbas étreinte pour étreinte, il lui dit « Cours prévenir le colonel Varoz, que j'arrive et que j'ai des choses de la plus haute importance à lui communiquer. Qu'il m'attende dans la grotte du haut, où je vais le rejoindre à l'instant. » Le trompette s'élança en bondissant comme un chamois. L'accusant échangea quelques paroles avec les partisans et leur promit qu'avant que 3 jours se fussent écoulés, le curé marquis serait de retour au milieu d'eux. Ensuite, il se dirigea avec Tristan de Champdivert vers l'escalier taillé en plein roc et qui conduisait à cet étage de la caverne dans lequel nous avons déjà introduit nos lecteurs. À peine avait-il fait quelques pas qu'il s'aperçut que Maggie ne le suivait point. Il se retourna et vit la vieille femme immobile, chancelante et paraissant pouvoir à peine se tenir debout. Il courut à elle, il l'enveloppa de ses bras pour la soutenir et lui demanda « Mon Dieu, qu'avez-vous ? » « Rien, capitaine, » répondit Maggie d'une voix assez ferme. « Je n'ai rien. » Puis, désignant du regard le gentilhomme dont elle avait pu voir distinctement, pour la première fois, le visage pâle et les cheveux blancs, pendant le temps d'arrêt qui venait d'avoir lieu, elle balbutia à l'oreille de l'accusant. « C'est lui, n'est-ce pas ? Oh, capitaine, dites-moi que c'est lui. »« Qui donc ? » fit le jeune homme avec un étonnement facile à comprendre. « Lui, mon vieux seigneur. Lui, le baron Tristan. » L'accusant tressaillit. « C'est lui, » répliqua-t-il vivement et tout bas. « Mais silence !» Maggie tomba à genoux et se mit à murmurer, des lèvres et du cœur, des paroles entrecoupées d'une ardente action de grâce. Ensuite, elle se retourna et elle dit « Je puis vous suivre maintenant, capitaine. Me voici forte. Je me tairai tant qu'il le faudra. Je me tairai toute ma vie s'il le fallait. Et cependant, il y a dans mon pauvre vieux cœur assez de joie pour me faire vivre 100 ans. » L'accusant lui serra silencieusement la main et se remit en marche. Quelques secondes après ce moment, il avait gravi l'escalier et il entrait dans la petite grotte où Varoz et Raoul l'attendaient avec une impatience pleine d'anxiété. Une lampe, dont toute l'huile était usée, achevait de consumer sa mèche fumante qui mourait sans jeter de lueur. Le colonel et le jeune homme virent bien que l'accusant n'était pas seul, mais ils n'accordèrent qu'une très minime attention à ses compagnons. « Mes amis, leur dit le capitaine après avoir répondu à leurs embrassements, je veux avant tout vous rassurer au sujet d'Églantine. Je reviens sans elle, mais cette chère enfant bien-aimée est en sûreté. Aucun danger ne la menace, et je crois même pouvoir ajouter qu'en ce moment, aucun danger ne saurait l'atteindre. « Ah ! » s'écria Raoul avec impétuosité. « Ah, capitaine, soyez béni !»« Bientôt, » poursuivit l'accusant, « bientôt, dans un instant, je vous reparlerai d'elle, et je vous révélerai des mystères tellement étranges qu'il vous semblera, en m'écoutant, que vous faites un mauvais rêve. Sachez d'abord que Maggie la sorcière avait dit vrai. Le seigneur de l'aigle est un bourreau. « Capitaine, » murmura Raoul, « je vous l'avais bien dit. »« Et moi, je le devinais, » ajouta Varoz. « Tu vois maintenant, Jean-Claude, tu vois que mon instinct ne me trompait pas. » « J'ai lutté contre vos pressentiments à tous les deux, c'est vrai, » répliqua l'accusant. « Pouvais-je croire à tant d'infamie ? Pour me convaincre, il fallait l'évidence, il fallait un miracle. L'évidence est venue, le miracle s'est fait. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait décrété que l'enlèvement d'Églantine me conduirait au château de l'aigle. Dieu m'a guidé, Dieu m'a choisi pour faire de moi l'instrument d'une grande réparation et d'un grand châtiment. J'ai commencé l'œuvre sainte, vous vous unirez à moi pour la mener à bonne fin. » L'accusant s'interrompit. Il s'approcha du baron Tristan qui s'était assis dans un angle obscur de la grotte. Il mit un genou en terre devant lui, baisa sa main et reprit en s'adressant à lui. « Monseigneur !»« Monseigneur ? » s'écrièrent à la fois Varoz et Raoul stupéfaits. « Vous avez bien souffert, » continua l'accusant. «
Vous avez souffert plus que ne peut souffrir un homme. Dieu doit une éclatante compensation à vos tortures, et je vous la promets en son nom. Vous avez été fort et résigné contre les malheurs. Soutenu par un espoir bien vague, vous avez lutté avec la double énergie du corps et de l'âme contre un martyr de 20 années. Vous avez triomphé dans cette lutte formidable, car j'ai trouvé un corps vigoureux et un esprit vaillant dans ce cachot où j'aurais dû ne trouver qu'un cadavre ou qu'un fou. Le moment est venu de rappeler à vous, mon Seigneur, cette énergie, cette force, cette vaillance dont vous avez donné tant de preuves. On vous avait tout enlevé, votre rang, votre fortune, votre famille et jusqu'à votre nom. Ne vous laisseriez-vous pas briser sous le choc écrasant du bonheur, si l'on vous rendait tout cela ?
Capitaine !
S'écria Tristan en se levant et en appuyant ses mains tremblantes d'émotion sur les épaules du héros montagnard.
Capitaine, qu'avez-vous dit ? Quels mots avez-vous prononcé ? Ai-je bien entendu ? Ma famille ? J'ai donc une famille ? J'avais un fils. Mon fils est donc vivant ?
Monseigneur, la joie tue. Monseigneur, prenez garde.
Qu'ai-je à craindre ? Reprit Tristan.
La douleur a passé sur moi sans laisser son empreinte. La joie rajeunira le vieux sang qui coule dans mes veines. Capitaine, au nom du ciel, répondez-moi. N'ayez pas peur, capitaine. Si mon fils est vivant, je vivrai pour aimer mon fils.
En écoutant la voix de Tristan, Varus avait tressailli, comme tressaille dans les steppes de l'Amérique du Nord, le cheval libre et sauvage, qui tout à coup entend venir jusqu'à lui, à travers l'espace, le hennissement de son frère captif. Le vieux soldat sentait un essaim de pensées confuses et de vagues espérances tourbillonner dans son cerveau troublé. Les veines de ses tempes se gonflaient, ses narines dilatées frémissaient. Il essayait de percer d'un regard éperdu la demi-obscurité qui mettait un voile sur les traits de cet homme, dont il ne pouvait distinguer que la haute taille et les cheveux blancs. De lointains souvenirs se réveillaient en lui, et tantôt il les accueillait comme une promesse, tantôt il les chassait comme une illusion. Raoul, de son côté, éprouvait une émotion si vive et si profonde qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais ressenti rien de pareil, même au moment où, dans la maison de la Grand Rue de Saint-Claude, il avait appris qu'Églantine était près de lui. Et il se demandait d'où venait ce trouble instinctif et pourquoi les battements de son cœur se précipitaient ainsi. La réponse ne se fit pas attendre. « Parlez, capitaine, continua Tristan, parlez vite, car vous venez de mettre dans mon âme un espoir si ardent et si fou que si vous tardez, ce n'est pas la joie qui me tuera, c'est le doute. »
« Eh bien, soyez fort, monseigneur, répondit l'accusant, car tout ce que j'ai promis, je vais le tenir. J'ai dit que je vous rendrai votre nom et votre famille. Baron Tristan de Champdivers, embrassez votre fils que voici dans vos bras. » Et il poussa en effet dans les bras du vieillard, Raoul, qui le visage inondé de larmes, balbutia avec une joie plus qu'humaine ces deux mots si doux. « Mon père !»
Varus n'y tint plus. L'émotion et l'attendrissement le débordaient. Il appuya contre sa poitrine bondissante le père et le fils enlacés, et les unissant dans une même étreinte, il les embrassa longtemps, en pleurant comme un enfant, et en murmurant d'une voix entrecoupée et presque indistincte.
« Tristan, c'est moi, ton ami, ton frère, ton vieux Varus. Ah, ton image vivait là. Je t'aimais bien, Tristan. Je ne t'oubliais pas, moi. J'ai tant pleuré ta mort. Je te revois. Tu es là, près de moi, dans mes bras. Vous êtes là tous deux, car j'aime ton fils, Tristan. Je l'aime comme je t'aimais, et il le mérite comme tu le méritais. Tu étais beau, loyal et brave. Il est beau, il est brave, il est loyal. Ah, que Dieu maintenant rappelle mon âme à lui quand il le voudra. J'ai vécu le jour le plus heureux de ma vie. »
Elle fut longue, cette triple étreinte du père, du fils et de l'ami. Cette étreinte dans laquelle trois nobles cœurs battaient à l'unisson. Tristan se sentait près de défaillir sous le fardeau de son bonheur. Les 20 années de souffrance qu'il venait de traverser avaient disparu de ses souvenirs comme un rêve qui s'efface. Et volontiers, il se fût écrié. Douleur de l'isolement, souffrance de la captivité, torture du corps et de l'âme. Non, vous n'avez pas existé. L'accusant contemplait ce tableau touchant avec une ivresse orgueilleuse. Ce bonheur était son ouvrage, il était en même temps sa récompense. Quand les premiers transports de cette triple reconnaissance se furent apaisés, quand les bras se furent dénoués pour ne laisser que les mains unies, Maggie s'avança lentement et humblement. Elle s'agenouilla aux pieds de Tristan dont elle embrassa les genoux, et après l'avoir regardé pendant un instant de bas en haut, à travers les larmes qui ruisselaient sur sa figure expressive, elle balbutia « Et moi, mon Seigneur, mon cher Seigneur, n'aurais-je donc de vous ni un souvenir, ni une parole ?» Le baron de Champdivert attacha son regard sur les traits de la vieille femme et s'écria « Marguerite !»« Il me reconnaît, » dit-elle en se levant avec une exaltation folle. « Il me reconnaît. Mon Seigneur me reconnaît. Qui me prédit cela quand je fuyais les ruines embrasées du château de Champdivert, sous lesquelles je croyais le père et le fils ensevelis? Qui m'eût dit que je les reverrais un jour tous les deux? Qui m'eût dit quand je pleurais mon nourrisson, mon pauvre enfant, mon Raoul? Qui m'eût dit qu'un jour je sauverais la vie à celui que je croyais mort? Car la vieille et laide Maggie d'aujourd'hui s'appelait Marguerite autrefois. Et elle était votre nourrice, messire Raoul. Mon Raoul, mon beau Raoul. Oh, mon enfant, mon cher enfant, laissez-moi vous voir encore. Laisse-moi t'embrasser aujourd'hui, comme je t'embrassais jadis. » Nous n'avons pas besoin d'ajouter que Raoul se prêta de tout son cœur à l'accomplissement du désir de la pauvre et noble femme, et qu'il lui rendit étreinte pour étreinte et baiser pour baiser. Ces scènes touchantes, dont nous n'avons su tracer dans les pages qui précèdent qu'une ébauche pâle et incomplète, auraient pu se prolonger longtemps encore, si l'accusant n'eût rappelé à l'esprit de Varros et de Raoul les préoccupations un instant effacées par des événements si complètement inattendus. « Le bonheur qui rendrait le cœur égoïste et dessécherait l'âme serait un bonheur immérité, » dit-il. « Le curé marquis est prisonnier. Songeons au curé marquis. » Le baron de Champdivert vous racontera lui-même ensuite la terrible odyssée de ses longues tortures, et moi je tiendrai ma promesse en vous reparlant d'Églantine. Mais encore une fois, en ce moment, ne nous occupons que de Marquis. « Que faire ? » s'écria Varros en tordant sa moustache blanche. « Comment savoir en quel lieu les gris ont conduit leurs captifs ?»« Nous le savons, » répliqua le capitaine. « Et c'est à Clairvaux. »« À Clairvaux ?» répéta Varros. « Oui, mais alors le comte de Beaufremont. Il est traître et vendu comme le seigneur de l'aigle, et c'est à lui que ce dernier confie la garde de Marquis. » « Les misérables !» murmura le colonel. Puis il ajouta tout haut. « Eh bien, si Marquis est prisonnier à Clairvaux, il me semble que nous n'avons qu'un parti à prendre. Lequel ? Marchons sur Clairvaux, par Dieu, et délivrons Marquis. » « C'est ce que j'ai dit comme vous, colonel, » répliqua l'accusant. Et mon premier mouvement a été pareil au vôtre. Et, reprit vivement Varros, j'espère bien que pour toi comme pour moi, le second mouvement sera semblable au premier. Certes, seulement j'ai promis à notre bonne et fidèle Maggie de délibérer avec vous et en sa présence sur les observations qu'elle va vous soumettre elle-même, et qui, je l'avoue, me semblent parfaitement fondées. Qu'elle parle, répondit le colonel, et si elle a un bon conseil à nous donner, le diable m'emporte si nous ne le suivons pas. » Maggie répéta tout ce que nous lui avons entendu dire au capitaine en gravissant la côte de Ménétrux-en-Joux. « Elle a raison, complètement raison !» s'écria Varros quand il l'eut écouté. Ensuite, il lui demanda « Que comptez-vous faire ?»« Partir à l'instant, remettre au sire de Beaufremont la lettre et l'anneau du seigneur de l'aigle, découvrir ses intentions secrètes à l'endroit du curé marquis, et savoir en quel lieu on le cache, si ce n'est pas le château de Clairvaux qui lui sert de prison. Enfin, faire en sorte que vous soyez instruit de tout cela sans retard, pour qu'il vous soit possible d'agir avec connaissance de cause. » « Mais, pauvre femme, interrompit Varros, votre vigueur a des bornes, si votre courage n'en a pas. Vos forces vous trahiront. » « J'en ai peur, colonel, mais le cas est prévu. » « De quelle façon ? Comme il se peut que mes forces me trahissent en effet et que Clairvaux devienne pour moi un lieu de halte forcée, vous allez me donner quelques hommes sûrs qui devront m'accompagner et m'obéir. Ces hommes seront tout à la fois mes gardes du corps et mes émissaires. » « C'est facile. » « Eh bien, colonel, que ces hommes se tiennent prêts. » « Combien en voulez-vous »
Cinq ou six. L'accusant appela Piédefer. Lieutenant, lui dit-il, choisissez six hommes parmi les plus infatigables et les plus résolus de nos montagnards, et dites-leur que je les place sous les ordres de Magui, à qui je délègue toute mon autorité sur eux. Vous ajouterez qu'il s'agit de la délivrance du curé Marquis.
Oui, capitaine, répondit Piédefer en quittant la grotte.
Merci, colonel. Merci, capitaine, de la confiance que vous me témoignez, s'écria Magui. Je mourrai s'il le faut pour la justifier. Je vais baiser une dernière fois la main de mes seigneurs, et je pars. En passant par la forêt qui domine le val dessus, je puis encore être à Clairvaux avant le jour. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Et après avoir déposé un respectueux baiser sur la main de Tristan, sur celle de Raoul, la vieille femme sortit de la grotte et ne tarda guère à quitter le trou des gangones avec sa petite escorte.